Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Il s'est produit tout récemment, Germain, un léger incident avec une Nissan GT-R. Et si vous êtes de ceux qui vous promenez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez probablement déjà de quoi je parle. Une GT-R connue pour son niveau de performance extrême qui a été échappée à 375 km/h, si on peut dire ça comme ça. C'est celle d'Olivier Benloulou.
Et on peut rassurer les gens tout de suite, hein, c'était pas sur Métropolitain. Donc,
non, exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'était un record de vitesse qu'on tentait d'établir avec cette bagnole-là. Et le propriétaire de la voiture, Olivier Benloulou, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la voiture et de celui qui la conduisait aussi. Bonjour, Olivier.
Bonjour, messieurs.
Bon, alors, avant de parler, évidemment, de la voiture et de ce qui s'est passé, on va prendre des nouvelles de Maxime qui était au volant de la voiture.
Oui, c'est fortement apprécié. Alors, écoutez, Maxime se porte bien, sa vie n'est pas en danger. Il a reçu une chirurgie de plusieurs heures au niveau du dos. Son dos a été affecté. Il va avoir une belle bataille pour remonter sur ses pieds. Par contre, Maxime, c'est drôle à dire, mais il est déjà en train de battre des records à l'hôpital.
Ouais.
Il dit, tu sais, il faudrait que tu t'assoies comme 15 minutes dans la chaise. Et puis, il passe un 2 heures, puis les médecins ne comprennent pas comment ça se fait qu'il réussit à rester dans la chaise pendant 2 heures quand personne n'aurait jamais été capable. C'est un fighter.
Okay.
Alors, il a vraiment un bon moral, et puis il va revenir, et puis il est vraiment touché par tout le support qu'il reçoit des Québécois et du monde de la course. Alors, c'est fortement apprécié.
Et donc, si on revient sur l'accident, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, la voiture, finalement, s'est pas arrêtée? Et aussi, dans quel contexte tout ça s'est déroulé?
OK. Alors, la première chose que j'aimerais corriger, c'est que il n'a pas échappé la voiture. Ça, c'est très important de démitiger tout ça. La course était une course de demi-mille. Ça se passait à Messine, juste à côté de Maniwaki, à l'aéroport de Messine. Donc, c'est des courses qui se font habituellement sur des pistes d'aéroport comme celle-là. C'est une piste qui a été refaite entièrement en 2011. C'était des conditions absolument parfaites. Et la règle d'or dans les courses de demi-mille, c'est qu'on doit avoir un demi-mille d'accélération et au moins un demi-mille de freinage, qui était le cas. On okay. avait en plus un autre 250 pieds de dégagement dans l'herbe qui permettait aux pilotes, comme ça m'est arrivé souvent, de pouvoir se rattraper dans l'herbe si jamais on n'a pas assez de piste pour arrêter. Écoutez, la voiture est une voiture qui est connue. C'est une des 5 GTR les plus puissantes au monde. C'est la GTR qui a produit le plus de chevaux vapeur sur le dyno, soit 3300. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que la voiture, lorsqu'elle a fait sa passe, était à son mode le plus faible. Donc, c'était vraiment, vraiment une passe, une première passe. Donc, on commence jamais la journée avec une grosse passe. C'était vraiment une première passe et c'était au mode le plus faible. Donc, elle était complètement détournée, il faut comprendre.
OK.
Mais ça reste une voiture que même détournée, elle dépasse les 2000 chevaux. la voiture était bâtie pour deux choses, gagner ce qu'elle a fait et protéger et sauver la vie de son pilote, ce qu'elle a fait également. Il faut savoir que j'investis un budget énorme dans tout ce qui est sécurité, donc système d'incendie, la cage qui était selon les spécifications de NHRA, vu qu'on fait des quarts de mille dans la ligue du NHRA avec.
Okay.
Il faut savoir aussi que la vitesse que Maxime a fait sur le demi-mille, c'est une vitesse qu'on fait habituellement sur le quart de mille.
Wow.
Alors, c'est pas de l'inconnu pour nous. Je veux dire, cette voiture qu'on a roulée dans les 6 secondes à 220 000 à l'heure sur le quart de mille.
Donc, on peut pas dire qu'il a été téméraire, qu'il a pris un risque. On n'est pas absolument là, là.
Merci. C'est exactement ce qu'il faut démystifier.
Okay.
On était en connaissance de cause. Écoutez, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je dis toujours, dans le 2000, la course n'est jamais terminée jusqu'à temps que la voiture est arrêtée. Parce que je vais vous dire, la plupart des accidents se passent au niveau du freinage. Soit que le pilote a été trop brusque avec le freinage, il y a un coup de vent de côté dans les parachutes, la piste était sale au freinage,
ouais,
ou quoi que ce soit. Dans le cas de Maxime, écoutez, il a suivi le protocole à la lettre. La seule chose qui est arrivée, malheureusement, c'est que lorsqu'il a appuyé le bouton du parachute, il a effleuré le bouton la première fois au lieu de l'appuyer et de vraiment l'engager à fond. Alors, dans sa tête, il a senti le bouton, mais il ne l'a pas cliqué. Alors, ce qui fait que une fois qu'on arrive à la ligne d'arrivée, on lève l'accélérateur, on déclenche le parachute et ensuite, on saute sur les freins. Okay. Ça, c'est le protocole. Ce qu'il a fait, donc, il a levé l'essence, il a appuyé, malheureusement, effleuré le bouton du parachute qui n'a pas déclenché les parachutes et il était sur les freins. Et on voit qu'il essaie de freiner et finalement, il réalise qu'il n'a pas eu le coup dans le chest des parachutes.
Ben oui.
Il rembarque sur le bouton. Il engage le bouton finalement. Les parachutes se déploient à la toute fin, sauf que c'était un petit peu trop tard. Il n'avait plus assez de pistes pour freiner. Par contre, je vais vous dire, le fait qu'il a eu le réflexe de retourner sur le parachute, ça a dû lui décélérer au moins d'une autre centaine de kilomètres heure, qui a fait que l'impact a été beaucoup moindre, qui a fait que la voiture a réussi à subsister l'impact et qui fait qu'aujourd'hui, Maxime est encore en vie. Et relativement bien là.
Parce que j'imagine que si on freine assez brusquement avec la voiture sans que les parachutes soient ouverts à ces vitesses-là, le transfert de masse est gigantesque et là ça plonge du nez, peu importe là.
On peut pas y échapper là.
On était à une vitesse de 375 km/h à peu près.
Exactement. C'était okay. 235 000 à l'heure. Les choses se passent excessivement vite à ce niveau-là. Une seconde hésitation, malheureusement, tu payes cher. Tu payes cher pour l'hésitation. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Même l'année passée à Smith Falls, ça m'est arrivé la même chose. J'ai réussi à aller sur le parachute plus rapidement. Écoute, ça m'a tout pris pour arrêter la voiture. C'est de l'expérience. C'est, comme on dit, du seat time. Pourtant, Maxime a beaucoup, beaucoup d'expérience dans la course automobile. Peut-être pas autant dans cette voiture-là. Et puis, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que la voiture l'a protégé. Aujourd'hui, Maxime est là pour en parler. Il a une attitude de lion et il revient. Alors ça, c'est le scénario pour la course. Je dois dire vraiment un bravo à l'équipe d'intervention sur place, là, les paramédics et ambulanciers. Écoutez, j'en ai fait des courses aux États-Unis, plus d'une centaine. Et c'était l'équipe qui a été la plus rapide sur les lieux. Ils ont été hyper efficaces. Les gars étaient rigoureux et ils ont doublé d'ardeur. Ça a pas niaisé tout de suite l'hôpital de Maniwaki, tout de suite à Sacré-Cœur. Alors vraiment, okay. Là au Québec, bravo.
On va revenir un peu sur l'évolution, je pense, de cette GTR-là, parce que on le disait un peu plus tôt, c'est une des GTR les plus puissantes de cette planète. Et tu mentionnais aussi oui. que c'était celle qui développait sur le dyno le plus de puissance. C'est quand même pas rien. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire partir d'une GTR qui a 500 ou 600 chevaux selon l'année là, et de pousser ça à 3300 chevaux? Comment on réussit? Parce qu'on s'entend ouais. que rendu là, c'est plus vraiment une GTR. Là. C'est une construction artisanale et chaque truc est super, super poussé. Là. Donc, comment on fait pour ouais. se rendre à ce niveau-là?
Bon, ben de un, c'est définitif que c'est pas une voiture de rue. On a fait appel aux experts. Ouais. On a fait appel aux experts des GTR et du milieu, qui est AMS. Il faut surtout dire que AMS, dans ce reportage, ont vraiment tout fait dans leur pouvoir pour que la voiture gagne et également soit sécuritaire. Alors, on peut zéro reprocher quoi que ce soit à AMS, et au contraire, c'est des gars le numéro un au niveau de la construction et modification. Ce sont les pionniers de la GTR, AMS. C'est les premiers qui ont fait le 10 secondes au quart de mille, le 9 secondes, le 8 secondes, le 7 secondes et le 6 secondes au quart de mille. Donc, ils connaissent la recette gagnante pour les GTR. Ils ont de l'expérience. Ils ont une centaine de voitures de montée. Donc, encore là, c'est pas leur premier rodéo. La voiture était montée pour justement faire les deux, du quart de mille et du demi-mille, donc c'est absolument une voiture géniale pour ça. On a eu le deuxième temps le plus vite au monde avec cette GTR-là à 6,87 secondes sur le quart de mille à 218 000 à l'heure. La voiture est solide, la voiture est vraiment absolument incroyable, mais c'est un monstre, c'est une bête, il faut la dompter. Ça m'a pris, moi, 8 ans de course automobile et des séances à répétition de pratique pour être confortable au volant. Et encore là, il faut savoir, il faut respecter le pouvoir. Quand on ne respecte plus le pouvoir, on devient téméraire. C'est là où les accidents arrivent. Et, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour les jeunes là, qui décident de modifier leur voiture et de faire de la vitesse, mais Caroline, c'est pas sur l'autoroute qu'on fait ça. C'est pas sur les routes de rang non plus. Sachez que non seulement vous mettez votre vie, mais la vie des d'autres passagers et de d'autres personnes en danger. La raison pour laquelle je suis du 2000, ben c'est ça, je suis un gars d'adrénaline, j'aime ça aller vite, mais il y a un endroit et il y a un temps pour le faire. Vous pensez que vous avez une grosse voiture, emmenez-la, venez compétitionner contre moi si vous voulez, ça me fera plaisir, mais dans un circuit fermé, dans un endroit propice pour faire de la vitesse, c'est pas intelligent. Si vous pensez que vous êtes cool à rouler 150 000 à l'heure sur l'autoroute, ben c'est tout sauf être cool.
Non, ceci c'est ça.
Dit, la voiture est une voiture géniale et c'est drôle à dire, mais elle est peu abîmée. Elle est peu abîmée par rapport à l'impact qu'elle a eu. Elle va être remontée, puis on va la revoir sous peu. Et puis
ah ben ça c'est fascinant quand même là.
Ben écoutez, c'est ça lorsqu'on ne coupe pas les coins ronds. Et quand on veut faire de la vitesse, ben c'est pas juste de mettre un gros moteur. Tu sais, je mentionnais hier, quand j'ai commencé à faire des courses de 2000 aux États-Unis, il y a peut-être 7 ans ou 8 ans, écoute, le monde se montait des Lamborghini de fou, des moteurs de 2500 chevaux. Ils arrivaient sur la ligne de départ, ils avaient pas de cage, pas de système d'incendie. Ils arrivaient en gogoun, en short et en camisole.
Ils avaient un casque de motocross. Ils avaient un moteur, puis c'est tout, là.
Puis il y avait un Red Bull dans le porte-gobelet.
C'est ça. Non, c'est exactement ça. Puis je leur ai dit, les gars, vous êtes complètement dépassés. Voyons, ça marche pas. Et écoute, j'ai vraiment participé au niveau de sécurité de ces événements-là parce que je suis un gars toujours qui essaie de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire attention. J'analyse la piste, j'analyse les environs, j'analyse où sont les spectateurs pour s'assurer que si jamais t'as une voiture qui dérape, que la vie des personnes qui sont spectateurs ne sont pas en danger. Alors, le sport a énormément évolué. Les voitures aujourd'hui sont beaucoup plus sécuritaires. Maxime est habillé de la tête aux pieds avec de l'équipement pare-feu. Il avait son Hans pour protéger son cou qui a fait son travail. Alors, quand on fait quelque chose, il faut le faire et puis être préparé. Comme n'importe quel sport extrême, il faut que tu arrives avec du bon équipement.
La GTR va reprendre du service. Est-ce que cette voiture-là a donné tout ce qu'elle était capable de donner ou est-ce qu'il reste encore quelque chose à aller chercher de cette voiture-là?
Écoute, cette voiture-là a donné le moins qu'elle pouvait donner sur cette passe-là. C'est la réalité.
Non, mais je parle dans sa carrière. Dans sa carrière.
Est-ce qu'on va pouvoir repousser les limites encore avec cette voiture-là?
Oui. Écoute, bonne question. Sais-tu, moi, personnellement, j'ai pas mal poussé les limites que je voulais pousser. Je suis rendu à un certain âge. Mes enfants, tu sais, papa, je pense que tu as peut-être trop à perdre. Puis, c'est pas du côté financier, c'est plutôt la joie de vivre, les beaux moments en famille, puis ce que tu voudras. Moi, je suis rendu, tu sais quoi, j'aime ça faire des passes, mais des petites passes de pépère. Tu sais, des passes de pépère à 220 000 à l'heure quand même.
Oui, c'est ça, tout est en relatif, là. Mais justement, c'est quoi le plaisir que vous ressentez en accélération? Parce que les vitesses que vous avez mentionnées, probablement que la plupart des gens qui nous écoutent à la maison n'ont jamais roulé plus vite que ça. De toute manière, hein, on sait bien, les limites sont de 100 km/h sur la route. Donc, c'est quoi le feeling quand on roule à une vitesse aussi élevée?
OK. Ben, première chose, on le sait, hein. On s'achète une nouvelle voiture, oh my God, elle est puissante, mais on s'habitue rapidement à la puissance. C'est ça le danger. C'est qu'on s'habitue rapidement à la puissance de notre voiture, et plus que tu en fais, plus que tu t'habitues à la puissance et à la vitesse. Ceci dit, quand tu montes dans une voiture de plus de 2000 chevaux, écoute, comme n'importe quelle personne qui va faire une performance, tu as les papillons, et là... C'est vraiment, vraiment très, très cérébral. C'est dans la tête, c'est le mental. Il faut absolument que tu sois dans ta zone. Et c'est ce que j'adore, d'ailleurs, dans la course automobile, que ce soit dans le quart de mille, demi-mille, ou même dans les courses que l'on fait d'endurance, des courses de 8 heures, où on est 2 heures dans la siège du pilote.
Ouais.
C'est vraiment que tu rentres dans ta bulle et tu fais le vide complètement et tu vis le moment présent et chaque seconde que tu dans laquelle que tu es dans le véhicule, tu es concentré à faire une chose, c'est focusser sur ce que tu fais là. Tu ne penses pas à hier, tu ne penses pas à demain, tu ne penses pas à tes factures à payer, tu ne penses pas à rien d'autre que ça. Et c'est vraiment spécial comme feeling. Il faut savoir que une fois ce côté-là un petit peu plus préparatif mental, il faut absolument que tu sois en forme. Alors, la forme physique, la forme mentale, que tu sois prêt physiquement, parce que quand tu fais ton burn-out avec Alpha Queen et que tu es prêt sur la ligne de départ et que tu rêves la voiture et tu fais ton launch, puis que tu lèves, quand tu lèves le frein et tu sais que dans un quart de seconde, ça va frapper, c'est vraiment... tu te bats quasiment contre toi parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient, tu anticipes qu'est-ce qui s'en vient, c'est une sensation extrême. Et ça devient de l'autopilote aussi. Hein. Il faut savoir que les pilotes de course, à un moment donné, tu ne penses pas à ce que tu dois faire. Tu l'as tellement fait de fois que tu réagis, c'est un réflexe. C'est une adrénaline pure. C'est une sensation, vraiment. C'est un sport, et on l'appelle, c'est une discipline. Hein. Alors, c'est la discipline de la conduite automobile, c'est ce que c'est. Il faut vraiment que tu sois mindé. Et je peux te dire que tu as des papillons, mais tu as toutes les papillons sont dans ton ventre à ce moment-là quand tu pars. C'est vraiment spécial.
Ouais. Dans l'émission Les génies de la vitesse, il y a déjà une saison de passé, il y aura une deuxième saison prochainement. Il y a eu toutes sortes de concurrents, évidemment, avec des voitures différentes, à des degrés différents. Est-ce que tu as pu ressentir cette passion-là et cette concentration-là de la part des différents concurrents qui se sont présentés là pour aller rivaliser avec toi sur le circuit? Parce qu'il faut mettre les gens en contexte, il faut quand même le mentionner, cette émission-là met en vedette Olivier Benloulou avec sa collection de voitures. Et lui a mis au défi des gens
du public qui ont une voiture hors de leur ordinaire, tout simplement.
De venir faire une course d'accélération contre une de ces voitures exotiques. C'était quand même assez impressionnant de voir une Charger modifiée contre... là, je me souviens pas des parallèles. C'était-tu la Koenigsegg? C'était-tu la... GT3 RS, bref.
Mais tu devrais y aller avec ta CRX SI. Je pense que tu as des chances.
C'est sûr que oui. Mais avec la grosse brune, ça serait intéressant.
Oui.
Mais moi, est-ce que ces concurrents-là se sont présentés là avec ce niveau de savoir-là pour aller rivaliser contre toi?
Écoute, ce que tu mentionnes, c'est intéressant. Et beaucoup de monde, d'ailleurs les spectateurs, ne sont pas au courant que je ne rencontre pas les concurrents avant la course. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas quelle est leur voiture, je ne les connais pas, mais pas du tout. Et je les rencontre le matin même de la course.
Donc, il y a une équipe de recherche. Il y a une équipe de recherche qui travaille à trouver les gens, vont faire les reportages eux vont se présenter la journée avec leur voiture et toi, tu les rencontres à ce moment-là.
Je les découvre à ce moment-là. Et pour répondre à ta question, écoute, tous les pilotes que j'ai rencontrés se sont fait piquer par la même guêpe que je me suis fait piquer.
Ouais.
On est tous la même affaire. on est tous passionnés. On passe des heures dans notre voiture, dans notre moteur, à se préparer, on est mindé, on est focusé, on est un petit peu maniaque. On a cette passion-là, on a les yeux vitreux, le sourire. Écoute, on partage vraiment quelque chose, tous les coureurs ensemble, de magique, et de pouvoir, imagine-toi, essayer leur voiture, modifier leur bébé, là, contre une voiture de série tout de même assez spéciale, sur une piste qui est faite pour ça. Ben écoute, c'est l'apogée pour n'importe quel modificateur de voiture. Je m'apprête justement à aller tourner la saison 2. J'emmène 8 autres voitures absolument incroyables. Et puis, c'est vraiment très excitant.
Tu dirais que dans la première saison, la voiture et son conducteur qui t'ont le plus impressionné, ça serait qui ou lequel?
Ben, écoute, mon plus gros rival, c'était définitivement Pascal avec la GTR, que ouais. Je connais très bien.
OK.
Ce gars-là, écoute, c'est celui qui est le plus impressionnant parce que c'est lui qui a poussé la machine le plus à enlever les bumpers, à perdre 30 livres avant la course.
Ouais.
On se comprend que c'est vrai. T'sais? Quand tu es rendu là, c'est bien beau, mais c'est que tu veux gagner, si tu veux être capable de couper des millisecondes. C'est qu'on va se comprendre, on va dire les vraies choses. Il est plus maniaque que moi, Pascal. Puis je l'adore. C'est un excellent compétiteur et puis c'est un gars de chez nous aussi.
Sinon, on sait, Olivier, que vous êtes aussi propriétaire de l'entreprise OB Prestige Auto. Et là, c'est un côté peut-être un peu curieux à l'intérieur de moi. C'est quoi les prochaines voitures exotiques que vous attendez?
Ah, ben voilà, ben ça c'est... Habituellement, je garde ça en secret, mais je vous donne quelques-unes, d'accord? Pour le concessionnaire, j'ai récemment commandé la nouvelle MC20 de Maserati.
Ouais.
C'est un nouveau concept. J'ai bien hâte de voir. Il me semble que c'est une voiture qui va être bien intéressante. Elle a tout pour avoir du succès. Alors, celle-là, elle s'en vient. J'ai déjà commandé il y a 2 ans que je vais recevoir l'année prochaine ma Pagani Huayra Roadster BC, qui est la Pagani qui est la plus poussée. BC, c'est les initiales d'un coureur automobile que Horacio Pagani connaissait très bien. Seulement 40 voitures au monde produites. Tous les nouveaux composites de fibre de carbone dans cette voiture-là. Le moteur est amélioré, transmission, suspension. C'est vraiment l'apogée des Pagani que je vais avoir l'année prochaine. Donc, je suis vraiment content de pouvoir être parmi les 40 au monde qui vont avoir cette voiture-là. J'adore, d'ailleurs, c'est une de mes marques favoris. Moi, je vais vous dire, moi, je suis Pagani et Mercedes, je suis vendu. J'ai également, ma prochaine voiture que je vais pouvoir recevoir, c'est la Koenigsegg Regera.
Oh.
Celle-là, ça fait déjà 3 ans que j'ai commandé. J'ai la Koenigsegg Jesko, qui est également en commande.
Oui, oui, oui.
2023. Ouais, ouais. J'ai la Pagani C10, qui est, au fond, le successeur de la Huayra. J'ai été invité pour être propriétaire de cette voiture-là que j'ai commandée. Et je vais vous donner une pour vous. Vous allez trouver ça complètement capoté. C'est que Horacio se faisait harceler par les propriétaires de Pagani, les puristes, et on lui demandait de revenir avec une boîte de vitesse manuelle.
Ah oui!
Et sur la C10, imaginez-vous, on va avoir le choix... soit automatique ou manuel. Évidemment, j'ai opté pour manuel.
Bravo, donc, bravo. C'était le bon choix.
Ah, écoutez, j'ai déjà conduit des Mustang dans le temps de 300 chevaux manuels, mais je ne peux pas m'imaginer une voiture de 760 chevaux manuels. Je ne sais pas quel genre de transmission qu'il va y avoir là-dedans, mais j'ai hâte de voir. C'est absolument incroyable. Une autre que j'attends incessamment, c'est la nouvelle AMG GT Black Series.
Oui.
Dont j'ai réussi... obtenir une pour la seule raison que j'ai commandé une Project One de Mercedes qui...
ça aussi, ça se fait attendre, là. C'est assez long, là.
Oui, oui. Ils ont un petit peu de difficulté. Hein. Les ingénieurs ont un petit peu de difficulté à partir le moteur à moins 16 degrés. Il faut se dire que je pense pas que je mets une course de Formule 1 qui s'est roulée l'hiver ou au moins dans le moins 16. Alors... ça leur a donné un petit peu de fil à retordre, mais ils l'ont figuré, puis maintenant, ils sont en production, donc on devrait peut-être voir cette voiture d'ici 2-3 ans.
Bon, ben c'est un bon début, hein, on dit ça comme ça. C'est un bon début.
Ça, c'est pour la collection, c'est pour le plaisir, les voitures un petit peu plus haut de gamme, hypercar, mais je vais vous dire, pour moi, rendu où je suis, puis j'ai un amour vraiment spécial pour les Rolls-Royce.
Ouais.
J'ai toujours voulu, depuis l'âge de 30 ans, une Rolls-Royce, puis... mon ex-femme me disait toujours, ben voyons, tu vas avoir d'un vieux là-dedans. Mais je m'en fous pas mal que j'ai l'air d'un vieux. C'est une voiture qui est absolument extraordinaire. Et j'ai commandé le nouveau Rolls-Royce Cullinan et la Phantom, qui est mes voitures du quotidien. Puis c'est des voitures absolument géniales. Si quelqu'un se demande qu'est-ce qu'il devrait s'acheter pour se faire un plaisir, ben je vais vous dire, ne pas hésiter, Rolls-Royce, ça c'est numéro un.
Bon, mais on prend en note cette recommandation-là.
Donc, l'année prochaine, on vous demandera peut-être de rédiger les textes Rolls-Royce du guide de l'auto. On aura peut-être un avis différent.
Ben oui, de quelqu'un qui les aura conduits sur une plus grande distance, visiblement. Ben,
d'ici là, merci, Olivier, d'avoir pris le temps de nous parler. Prudence sur les pistes, on peut dire ça comme ça.
Effectivement.
Et surtout, bonne chance pour les tournages des prochains jours, parce que ça, on va voir ça à l'écran, j'imagine, la saison prochaine.
Absolument, absolument. Écoutez, j'apprécie, messieurs. Et si tout le monde peut faire une petite prière pour Maxime, on est avec lui et on lui souhaite prompt rétablissement.
Merci beaucoup, Olivier. Merci. Salutations, Maxime.
Merci.
OK, au revoir. Messieurs.